Chapitre 5. Une danse différente. Le cerf doré tenait les promesses que son nom laissait deviner. Dans la salle commune, les tables parfaitement polies et les bancs aux pieds sculptés de roses n'étaient pas serrés les uns contre les autres. Et une fille de salle en tablier blanc passait tout son temps à balayer le sol pourtant immaculé. Une frise de volutes bleues et or faisait tout le tour de la pièce, juste à ras du plafond, et les cheminées étaient toutes en pierre de première qualité. Leur foyer était agréablement paré de quelques branches vertes, et le cerf sculpté au-dessus de chaque linteau portait une coupe de vin sur la partie plane de ses andouillers. Sur le manteau d'une de ces cheminées, une grande horloge discrètement dorée égrenait de ses tic-tac les secondes et les minutes. Au fond de la salle, sur une estrade, un petit orchestre donnait un récital. Deux flûtistes en manches de chemise et ruisselant de sueur, deux joueurs de butor à neuf cordes et une femme rouge comme une pivoine qui frappait avec de minuscules marteaux de bois le dulcimer à percussion posé sur ses genoux. En robe bleu pâle et tablier assorti, plus d'une dizaine de serveuses passaient de table en table. Presque toutes étaient jolies, même si certaines avaient au moins l'âge de maîtresse d'Alvin, la petite et rondelette aubergiste qui arborait sur la nuque un chignon grisonnant. Exactement le genre d'endroit qu'appréciait Matt. Un temple du luxe et de l'argent. S'il avait choisi cet établissement parce qu'il était situé au centre de la ville, ses autres qualités étaient loin de lui déplaire. Bien entendu, tout n'était pas parfait dans l'auberge considérée comme la deuxième de Myron. Par exemple, des odeurs de mouton et de navet montaient de la cuisine, sans parler de l'incontournable soupe à l'orge épicée. Et elle se mêlait désagréablement aux relents de crasse et de crottins de cheval qui filtraient de la rue. Mais la gastronomie était toujours déficiente dans une ville bondée de réfugiés et de soldats venus des multiples camps installés alentour. Des échos de marches militaires plus ou moins paillardes parvenaient sans arrêt aux oreilles de Matt, au milieu des martèlements de bottes et de sabots. De temps en temps, un juron bien senti indiquait qu'un type de plus maudissait la chaleur. Les fenêtres étant fermées, on crevait également dans la salle commune. Mais si elles avaient été ouvertes, tout aurait été très vite couvert de poussière, sans que ça change grand-chose au niveau de la fraîcheur. Myron était un four géant. Et pour ce qu'en savait Matt, le monde entier était en train de sécher sur pied, et il ne voulait surtout pas y penser. Que n'aurait-il pas donné pour oublier la chaleur, la raison de sa présence dans ce trou et tout le reste? Alors qu'il avait ouvert sa veste verte brodée d'or au col et aux manches et délacé sa chemise, il continuait à suer comme un cochon. Retirer le foulard de soie noire qu'il portait autour du cou l'aurait peut-être soulagé, mais il s'en défaisait très rarement en public. Vidant sa coupe de vin en étain, il la posa sur la table, s'empara de son chapeau à large bord et entreprit de s'éventer avec. Tout ce qu'il buvait se transformait instantanément en sueur, le laissant toujours aussi déshydraté. Lorsqu'il avait décidé de descendre à l'auberge du cerf doré, les seigneurs et les officiers de la compagnie de la main rouge avaient suivi son exemple. Du coup, plus personne d'autre ne fréquentait l'établissement. La plupart du temps, ça n'indisposait pas maîtresse d'Alvin. La compagnie comptait assez de seigneurs et d'officiers pour remplir 5 fois son établissement, et ses clients-là, de très bons payeurs, se bagarraient rarement et avaient l'élégance de sortir quand il leur arrivait de répandre le sang. Ce midi, cependant, une dizaine d'hommes seulement occupaient les tables, et l'aubergiste lorgnait souvent les bancs vides avec un petit soupir qu'elle ponctuait en se tapotant le chignon. Comme de juste, la majeure partie de ses bénéfices venait des boissons alcoolisées. Malgré la faible affluence, les musiciens jouaient avec enthousiasme. Pour eux, 9 ou 10 seigneurs, à leurs yeux, quiconque détenait de l'or méritait ce titre, avaient une chance de se montrer plus généreux s'ils aimaient leurs prestations qu'une salle entière d'hommes du rang. Malheureusement pour la bourse de ces artistes, Matt était le seul à écouter. Il grinçait des dents toutes les 3 notes. Ce n'était pas vraiment la faute de ces gens, d'ailleurs. Leur musique sonnait plutôt bien quand on ignorait ce qu'on était en train d'écouter. Matt, lui, le savait. Il avait appris cet air aux musiciens en fredonnant et en tapant dans ses mains pour le tempo. À part lui, personne d'autre n'avait entendu ces notes depuis plus de 2000 ans. Et si on voulait être gentil, on pouvait dire que la petite formation avait bien capté la cadence. Des bribes de conversation attirèrent l'attention de Matt. Reposant son chapeau, il reprit sa coupe et la leva, signalant qu'il voulait boire, puis se pencha par-dessus sa table en direction des 3 hommes qui conversaient autour de celle d'à côté.
« Qu'ai-je entendu ? Nous essayons de trouver un moyen de reprendre un peu de l'argent dont tu nous as dépouillés, »
répondit Talmanès sans sourire. Il n'était pas d'humeur morose pour autant. Un peu plus âgé que Matt, qui avait 20 ans tout rond, et plus petit d'une tête, ce gaillard souriait rarement. En le voyant, Matt pensait inévitablement à un ressort prêt à se détendre.
« Personne ne peut te battre aux cartes. »
Chef de la moitié de la cavalerie de la compagnie, Talmanès était un seigneur du Kérien. Pourtant, il avait le devant du crâne rasé et poudré, même si la sueur avait un peu gâché l'effet. Beaucoup de jeunes seigneurs du Kérien avaient adopté l'allure des soldats. Par exemple, la veste de Talmanès n'arborait aucune rayure, alors qu'il aurait eu le droit d'en porter toute une série.
« Foutaise !»
s'écria Matt. En réalité, quand sa chance le tenait, elle ne le lâchait pas. Mais il y avait des cycles, surtout avec les cartes, car les probabilités gardaient quand même leur mot à dire lorsqu'on devait traiter avec un si grand nombre de variables.
« Par le sang et les cendres, la semaine dernière, tu m'as pris 50 couronnes. »
50 couronnes. Un an plus tôt, Matt aurait fait un saut périlleux arrière de joie s'il en avait gagné une. Et l'idée d'en perdre une lui aurait fait verser toutes les larmes de son corps. L'idée, parce qu'en ce temps-là, il n'aurait pas eu une couronne dans la poche.
« Il m'en reste encore combien de centaines à récupérer ?»
demanda Talmanès.
« Je veux une chance de me refaire. »
Là encore, des foutaises. Si Talmanès se mettait soudain à gagner régulièrement contre Matt, il se rongerait les sangs. Comme presque tous les hommes de la compagnie, il tenait la chance du jeune homme pour une sorte de mascotte.
« Les dés ne valent rien, »
marmonna Daeride, le chef de l'infanterie de la compagnie. Buvant avidement, il ignora la grimace à demi dissimulée derrière la barbe huilée de Naleséan. La plupart des nobles, selon l'expérience de Matt, jugeaient les dés à peine bons pour les paysans.
« Au dé, je ne t'ai jamais vu perdant à la fin d'une partie. Nous devons trouver un jeu sur lequel tu n'as aucun contrôle, si tu vois ce que je veux dire. »
Un peu plus grand que son compatriote Talmanès, Daeride avait 15 bonnes années de plus, un nez cassé plusieurs fois et 3 balafres blanches sur les joues. Le seul des 3 hommes à n'être pas de sang noble, ce soldat de métier avait lui aussi le devant du crâne rasé et poudré.
« Nous avons pensé aux chevaux, »
dit Naleséan en brandissant sa coupe pour appeler une serveuse. Rabelais et plus grand que les deux guerriers, il commandait l'autre moitié de la cavalerie. Avec une telle chaleur, se demandait souvent Matt, pourquoi gardait-il son abondante barbe? Cela dit, il la taillait tous les matins afin que la pointe soit parfaite. Et alors que Talmanès et Daeride avaient ouvert leur veste, Naleséan gardait la sienne boutonnée jusqu'au col. Dans ce vêtement typique de Théar avec ses manches matelassées, le pauvre transpirait comme une fontaine, mais il faisait mine de ne pas s'en apercevoir.
« Que la lumière brûle mon âme. Matt, ta chance te suit sur les champs de bataille quand tu joues aux cartes. Pareil pour les dés. Mais dans une course de chevaux, ce sont les montures qui comptent. »
Matt sourit et appuya les coudes sur la table.
« Trouve-toi un bon étalon et nous verrons. »
Sa chance n'aurait peut-être aucune influence sur une course. Peut-être. Parce qu'il ne pouvait jamais dire ce qu'elle influencerait ou non, à part des jeux comme les cartes ou les dés. Mais il avait passé son enfance à voir son père vendre et acheter des chevaux, et il avait un sacré coup d'œil en la matière.
« Vous voulez du vin ou non? Comment vous servir si je ne peux pas atteindre votre coupe ?»
Matt regarda par-dessus son épaule. La serveuse qui se tenait derrière lui avec une carafe en étain, mince et petite, était une beauté aux yeux noirs, aux joues laiteuses et aux boucles brunes cascadant sur ses épaules. Son accent précis et musical, typique du Kérien, évoquait le chant d'un carillon. Depuis qu'il séjournait au Cerf Doré, Matt avait des vues sur Betsé-Sylvine. Avec toutes les tâches dont il devait s'acquitter, 5 urgentes pour demain et 10 pour hier, c'était la première fois qu'il avait l'occasion de lui parler. Le connaissant, les 3 hommes faisaient mine d'être absorbés par la contemplation de leur coupe de vin. Le meilleur moyen de le laisser seul avec la belle sans quitter la salle. Décidément, ils avaient de l'éducation, même les 2 nobles. Souriant, Matt passa une jambe par-dessus le banc et tendit sa coupe à la serveuse.
« Merci, Betsé, »
dit-il. La jeune femme lui fit une révérence. Mais quand il lui demanda de se servir une coupe puis de s'asseoir avec lui, elle posa la carafe sur la table, croisa les bras, inclina la tête et étudia Matt du sommet du crâne à la pointe des pieds.
« Je doute que maîtresse Dalvin apprécierait. Non, j'en suis sûr même. Vous êtes un seigneur ?» Tous les autres semblent prêts à vous obéir au doigt et à l'œil. Ils ne vous appellent jamais « Monseigneur ». Et à part les hommes du rang, personne ne vous salue.
« Non !»
répondit Matt, plus sèchement qu'il l'aurait voulu.
Je ne suis pas un seigneur.
Rand se laissait donner à tout bout de champ du seigneur dragon, mais ce n'était pas le genre de Matrin Cotton. Pas le genre du tout. Après une grande inspiration, il afficha de nouveau un beau sourire. Certaines femmes aimaient prendre les hommes à contre-pied, histoire qu'ils s'en mêlent les pinceaux, mais c'était un pas de danse qu'il maîtrisait à la perfection.
« Appelle-moi Matt, Betsy, et tutoie-moi. Je suis sûr que maîtresse Dalvin ne se formalisera pas si tu t'assieds quelques instants avec moi. »«
Moi, je suis certaine du contraire, mais je peux bavarder un peu quand même. Tu es presque un seigneur, non? Pourquoi portes-tu ce foulard par une chaleur pareille ?»
Betsy se pencha et écarta le foulard du bout d'un index. Négligent, Matt l'avait laissé glisser un peu sur son cou.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda Betsy en suivant du bout du doigt la cicatrice blême qui barrait la gorge de Matt.
« Quelqu'un a voulu te pendre ? Pourquoi ? Tu es trop jeune pour être un brigand sans foi ni loi ?»
Matt recula la tête et renoua solidement le foulard. Mais Betsy ne se laissa pas intimider. Glissant une main dans la chemise ouverte du jeune homme, elle en tira son médaillon en forme de tête de renard.
« Parce que tu as volé ce bijou ? Il semble précieux, c'est vrai ?»
Matt saisit le médaillon et le remit à sa place. La belle servante ne lui avait jusque-là pas laissé le temps d'en placer une. Dans son dos, il entendit Naesean et Daerid ricaner, et le rouge lui monta aux joues. Parfois, sa chance, si insolente au jeu, l'abandonnait avec les femmes, et les types qu'il dépouillait trouvaient toujours ça très drôle.
« Si tu l'avais volé, on ne te l'aurait pas laissé. »
continua Betsy.
Et si tu es presque un seigneur, tu peux parfaitement posséder de si beaux bijoux. C'était peut-être parce que tu en sais trop. Tu as l'air d'un jeune homme qui ne manque pas de connaissances, ou qui le croit.
Betsy eut un de ces petits sourires entendus que les femmes utilisent pour déconcerter un homme. Le plus souvent, ces sourires n'entendaient rien du tout, mais l'essentiel restait de le faire croire à leur victime.
On t'a pendu parce que tu pensais en savoir long, ou parce que tu te faisais passer pour un seigneur ? Au fait, es-tu sûr de ne pas en être un ?
Daerid et Naleséan riaient aux éclats à présent, et Talmanès lui-même gloussait bêtement. Pour donner le change, Daerid, dès qu'il eut repris son souffle, fit mine de raconter la fin de l'histoire d'un crétin tombé de son cheval. Mais Matt n'y trouva rien de drôle. Il continua de sourire. Même si la demoiselle était capable de parler plus vite qu'il courait, il n'était pas question qu'il renonce. Primo, parce qu'elle était très jolie. Et secondo, parce qu'il venait de passer des semaines à fréquenter uniquement des types dans le genre de Daerid, voire pire. Des gars en sueur qui oubliaient de se raser et n'avaient pas souvent l'occasion de prendre un bain. Si elle transpirait comme tout le monde, Betsy embaumait le savon à la lavande.
« En fait, j'ai récolté cette cicatrice parce que j'en savais trop peu. »
Les femmes aimaient qu'un homme parle avec légèreté de ses blessures. Il y en avait assez pour ne plus en faire un plat.
« Aujourd'hui, j'en sais trop long. » Mais à l'époque, c'était le contraire. Disons que j'ai été pendu pour apprendre.
Betsy secoua la tête et fit la moue.
C'est censé être drôle, Matt. Les jeunes nobles disent tout le temps des choses spirituelles. Mais tu prétends ne pas être un seigneur. De plus, je suis une humble femme, et les subtilités me passent bien au-dessus de la tête. Les mots les plus simples sont les meilleurs. Puisque tu n'es pas un seigneur, tu devrais éviter les autres mots. Sinon, les gens risquent de penser que tu fais semblant d'être un seigneur. Aucune femme n'aime un homme qui joue à être ce qu'il n'est pas. Si tu m'expliquais ce que tu voulais dire. »
Matt eut du mal à garder son sourire. Avec cette femme, la joute verbale ne se déroulait pas du tout comme il le désirait. Était-elle totalement stupide ? Ou assez intelligente pour qu'il s'en mêle les pinceaux en tentant d'être à la hauteur ? Impossible à dire. Quoi qu'il en soit, elle restait fort jolie et embaumait la lavande, pas la transpiration. Alors que Daerid et Naleséan s'étranglaient de rire, Talmanès fredonnait une grenouille sur la glace. Ces types croyaient qu'il était en train de se casser la figure, les quatre fers en l'air. Matt posa sa coupe, se leva et s'inclina au-dessus de la main de Betsy.
« Je suis ce que je suis, rien de plus. Mais ton joli visage fait jaillir des mots de mon esprit. »
Betsy tressaillit. Quoi qu'elles en disent, les femmes étaient toujours sensibles aux compliments.
« Veux-tu danser avec moi ?»
Sans attendre de réponse, Matt tira sa conquête vers ce qu'on pouvait considérer comme une piste de danse. Avec un peu de chance, gambiller l'empêcherait de jacasser. Et la chance, c'était sa spécialité. De plus, il n'avait jamais entendu parler d'une femme dont la danse n'adoucissait pas le caractère. Danse avec elle, et elle oubliera beaucoup de choses. Danse bien, et elle oubliera tout. Un vieux proverbe. Très vieux. Betsé se mordit la lèvre, hésita, et regarda sa patronne. Avec un sourire, maîtresse d'Alvin lui fit signe de se laisser entraîner par Matt. Puis elle trifouilla son chignon, tentant en vain de remettre en place quelques mèches vagabondes, et alla harceler les autres serveuses comme si la salle commune avait été pleine à craquer. L'aubergiste se serait montré intraitable avec tout homme dont elle aurait jugé le comportement inadéquat. Malgré son apparence débonnaire, elle gardait une courte matraque cachée sous sa jupe, et il lui était déjà arrivé de s'en servir. La voyant approcher, Nalécéane la surveilla du coin de l'œil. Mais si un client qui ne lésinait pas à la dépense voulait danser avec une des serveuses, où était le mal? Matt tint les mains de Betsé écartées des deux côtés de son corps. Oui, sur la piste, il y aurait juste la place requise. Les musiciens se mirent à jouer plus fort, sinon plus juste.
« Suis-moi, tout simplement, »
dit le jeune flambeur à sa compagne.
« Les premiers pas sont très simples. »
En rythme avec la musique, il commença par une inclination, puis un pas chassé sur la droite, son pied gauche suivant le mouvement. Puis une autre inclination, un second pas chassé et une glissade, les bras en croix. Betsé saisit très vite et fit montre d'une vraie grâce de danseuse. Quand ils arrivèrent devant les musiciens, Matt souleva très haut les mains de sa partenaire, puis il lui fit exécuter une pirouette et en fit une aussi, les deux danseurs se retrouvant dos à dos. Matt enchaîna avec une inclination, un pas chassé et une autre pirouette qui lui permit de se retrouver face à Betsé. Il recommença ensuite la série de figures, leurs évolutions les ramenant à leur point de départ. La jeune femme réalisa l'ensemble des pas avec grâce et vivacité, souriant de plaisir chaque fois que la danse lui permettait de regarder dans les yeux de son jeune cavalier. Décidément, elle était belle comme un cœur, dut convenir Matt.
« Un peu plus compliqué à présent, »
murmura-t-il. Il guida Betsé pour qu'elle soit tous deux côte à côte en face des musiciens, les poignets croisés et les mains entrelacées devant eux. Genou droit en l'air, léger levé de pied à gauche, puis glissade avant et vers la droite. Ensuite, genou gauche en l'air, léger levé de pied à droite, puis glissade en avant et vers la gauche. Alors qu'il se dirigeait de nouveau vers les musiciens, Betsé éclata de rire. À chaque passage, les pas devinrent de plus en plus compliqués, mais une seule démonstration lui suffit pour s'en tirer aussi bien que son partenaire. Souple comme une liane, elle se laissa guider de pirouette en glissade, et cerise sur le gâteau, sans prononcer un mot. Malgré les notes manquantes et les couacs, la musique et la danse ensorcelèrent Matt. Tandis que Betsé et lui semblaient flotter sur le parquet de l'auberge, des souvenirs remontèrent à sa mémoire. Dans ses réminiscences, il était plus grand d'une bonne tête, arborait une moustache blonde et avait les yeux bleus. Vêtu d'une veste de soie couleur ambre serrée à la taille par une ceinture de tissu rouge, rehaussée au col par une fraise de la meilleure dentelle de Barcine et décorée sur la poitrine de boutons en saphir d'Aramel, il dansait avec une splendide émissaire à la peau sombre des Ataan Mihéré, le peuple de la mer. La fine chaîne d'or qui reliait l'anneau qu'elle portait au nez à une de ses nombreuses boucles d'oreilles était garnie de petits médaillons qui l'identifiaient comme une maîtresse des voiles du clan Chaudin. Une femme très puissante, certes, mais Matt s'en fichait, car c'était au roi de se soucier de ces choses-là, pas à un noble de moyenne importance tel que lui. Avec cette partenaire sublimement belle et légère comme une plume entre ses bras, il dansait sous le grand dôme de cristal de la cour de Shaimal, à une époque où le monde entier jalousait la splendeur et la gloire du Corémanda. D'autres souvenirs revinrent à la surface de l'esprit de Matt, attirés comme par un aimant par les images tourbillonnantes de ce bal. Le lendemain arriveraient des nouvelles au sujet des raids de Trolloc, qui sortaient de plus en plus souvent de la flétrissure. Un mois plus tard, on apprendrait que Barcine au Minaret d'Or avait été dévastée et brûlée, des hordes de Trolloc déferlant vers le sud. Le début de ce qu'on appellerait plus tard les guerres des Trolloc. Un nom que personne n'aurait songé à utiliser, à l'orée de plus de 3 siècles de batailles incessantes, de boucheries sanglantes, de cités incendiées et de nations réduites en cendres. 3 siècles pour parvenir à repousser les Trolloc et à traquer puis capturer les seigneurs de la terreur. Le commencement du déclin pour Corémanda, malgré toutes ses richesses et sa force, pour Essénia, en dépit de ses philosophes et de ses légendaires universités, pour Manéthérène et Éharon. En d'autres termes, pour toutes les 10 nations, victorieuses mais réduites en poussière, afin de donner naissance à d'autres pays qui se rappelleraient à peine leur existence, les tenant au mieux pour le symbole d'un âge d'or mythique. Mais tout cela était encore à venir, et Matt bannit ces souvenirs-là pour se concentrer sur le moment présent. Cette nuit en réalité très lointaine où il s'abandonnait à la danse au pas imposé avec le jeune homme cligna des yeux, un instant ébloui par la lumière du soleil qui se déversait des fenêtres et par le visage à l'éclatante blancheur qui lui souriait sous une fine rosée de transpiration. manquant sans mêler les jambes, lors de l'exécution des délicats entrelacs que ses pieds et ceux de Betsé dessinaient sur le sol, il se ressaisit d'instinct, évitant de faire trébucher sa partenaire. Cette danse lui appartenait, aussi sûrement que les autres souvenirs, qu'ils fussent empruntés ou volés. Parce que tout cela était désormais si intimement intriqué à son propre passé, le vrai, qu'il lui fallait réfléchir pour faire la distinction. Oui, tout ça était à lui, et comblait les trous dont était constellée sa mémoire. Tout bien pesé, il avait peut-être vécu pour de bon les moments qu'il évoquait. Au sujet de la cicatrice autour de son cou, il n'avait pas menti à Betsé. Pendu pour en avoir su trop long et pas assez. Par deux fois, il avait traversé un portique, en fait un terrain gréal, comme un jeune chien fou. Un idiot du village, convaincu que ce serait aussi facile qu'une promenade à travers champs. Enfin, presque aussi simple. Le résultat avait encore renforcé sa méfiance naturelle envers tout ce qui touchait de près ou de loin au pouvoir. La première fois, parmi une kyrielle d'autres choses qu'il n'avait eu aucune envie d'entendre, on lui avait dit qu'il était destiné à mourir puis à vivre de nouveau. À cause de certaines informations glanées malgré lui ce jour-là, il avait tenté une seconde traversée de terrain gréal, tout ça pour se retrouver avec une corde autour du cou. Une suite logique d'actions, chacune dictée par une très bonne raison ou par la pure nécessité, toutes semblant logiques sur le coup, et menant pourtant à des conséquences qu'il n'aurait jamais imaginées. Pour une raison inconnue, il semblait destiné à se retrouver embarqué dans des danses de ce genre. En tout cas, il était bel et bien mort, jusqu'à ce que Rand ait coupé la corde puis les ramener à la vie. Pour la centième fois, il refit une promesse solennelle. Désormais, il regarderait bien où il mettait les pieds. Plus question de se jeter tête baissée où que ce fût. Pour être honnête, ce jour fatal, il n'avait pas récolté qu'une cicatrice autour du cou. Pour commencer, il avait récupéré la tête de renard en argent, un jeu d'ombre faisant ressembler son œil unique à l'antique symbole des Aes Sedai. Parfois, penser à ce médaillon le faisait tellement rire qu'il en avait mal aux côtes. Ne se fiant à aucune Aes Sedai, il dormait et se baignait avec le précieux bijou autour du cou. Décidément, le monde était un endroit amusant, quand on aimait l'humour noir ou absurde. Ensuite, il avait gagné des connaissances, même s'il aurait préféré les laisser où elles étaient. Dans sa mémoire, des tranches de vie s'entassaient. Des tranches d'autres vies. Des milliers d'autres vies, parfois quelques heures, parfois des années, mais avec des trous. Le souvenir de cours royales et de multiples combats, tout ça couvrant bien plus d'un millénaire, d'un temps bien antérieur aux guerres des Trollocs, jusqu'à la dernière des batailles ayant jalonné l'ascension d'Arthur Aldefaucon. Un passé, non, des passés qui lui appartenaient, où c'était tout comme. Nalécéan, Daérid et Talmanès tapaient dans leurs mains au rythme de la musique, comme tous les autres hommes présents. Des membres de la Compagnie de la Main Rouge qui encourageaient leur chef à danser. Ce nom, la Compagnie de la Main Rouge, le faisait frissonner intérieurement, car il avait été celui d'un groupe de héros qui avaient tous péri en essayant de sauver Manéthérène. Aujourd'hui, tous les hommes qui défilaient à pied ou à cheval derrière l'étendard de la Compagnie pensaient finir eux aussi au firmament de la légende. Maîtresse d'Alvin tapait aussi dans ses mains, et les autres serveuses avaient cessé de travailler pour regarder les danseurs. Si les membres de la Compagnie suivaient Matt, c'était à cause de ses souvenirs empruntés, même s'ils n'en avaient pas conscience. Parce qu'il avait dans sa tête l'exacte connaissance de bataille et de campagne qu'il avait fallu plus de 100 hommes pour livrer ou pour mener. Qu'il ait appartenu au camp des vainqueurs ou à celui des vaincus, il se rappelait parfaitement comment chacune de ces batailles avait été gagnée ou perdue. Avec un peu d'astuce, il lui était donc très facile d'imaginer des stratégies gagnantes pour la Compagnie. En tout cas, ça avait fonctionné jusque-là, quand il ne trouvait aucun moyen d'éviter une confrontation. Plus souvent qu'à son tour, Matt avait souhaité qu'on le débarrasse de ses mémoires parasites. Car sans elles, il n'aurait jamais été dans cette fichue ville, chef de 6000 hommes, avec de nouvelles recrues affluant chaque jour, et sur le point de les conduire au sud, où il devrait prendre le commandement d'une fichue armée pour envahir un pays de malheur contrôlé par un de ses maudits rejetés. N'ayant rien d'un héros, il n'avait aucune envie d'en devenir un, parce que ces crétins-là avaient la mauvaise habitude de mourir jeune. Un héros, c'était un peu un chien auquel on lançait un os, puis qu'on poussait dans un coin, histoire qu'il ne puisse pas aller le chercher. Ou pire encore, lui promettre un os afin de l'envoyer de nouveau à la chasse. Et ça valait aussi pour les soldats, bien entendu. Cela dit, sans ses fameux souvenirs, Matt n'aurait pas eu 1000 braves types autour de lui. Non, il aurait été seul. Taverne jusqu'à la moelle des os et lié au dragon réincarné. Bref, une cible sans défense et connue des rejetés. Quoique certains d'entre eux, semblait-il, en connaissaient déjà beaucoup trop long au sujet de Matrim Cotton. Selon Feu Moiraine, il était important, au point que Rand aurait peut-être besoin de lui et de Perrine pour remporter l'ultime bataille. Si elle ne s'était pas trompée, il ferait ce qu'il faudrait, même si cette idée lui déplaisait souverainement. Et ça n'impliquait pas d'être un fichu héros, s'il avait pu seulement imaginer que faire au sujet du corps de Valère de Malheur. Récitant intérieurement une courte prière pour le salut de Moiraine et de son âme, il espéra très fort qu'elle s'était trompée. Lorsque Betsé et lui furent revenus pour la dernière fois à leur point de départ, il s'immobilisa, et la jeune femme se laissa tomber dans ses bras en riant aux éclats.
« C'était merveilleux! Je me suis cru dans la salle de bal d'un palais. On pourrait recommencer? Oui, encore une fois! Encore une fois !»
Maîtresse d'Alvin applaudit un moment, puis elle s'avisa que les autres serveuses ne fichaient plus rien. Fondant sur elle en gesticulant à un sémaphore, elle les força à s'éparpiller comme une volée de moineaux.
« Fille de neuf lunes, ça te dit quelque chose ?»
demanda Matt à sa cavalière. Les mots étaient sortis tout seuls de sa bouche, sans doute parce qu'il avait pensé à ses fichus Terrangréal. S'il trouvait un jour la fille des neuf lunes, et fasse la lumière que ce ne soit pas demain, elle ne serait certainement pas serveuse dans l'auberge d'une ville remplie de soldats et de réfugiés. Encore que, qui pouvait dire avec les prophéties ? Mourir et vivre de nouveau, épouser la fille des neuf lunes. Renoncer à la moitié de la lumière afin de sauver le monde, quoi que ça puisse vouloir dire. Mais il était bel et bien mort au bout de cette corde. Si cette prédiction était vraie, les autres devaient l'être aussi. Pas moyen de voir les choses autrement.
« La fille des neuf lunes ?»
répéta Betsé, le souffle encore court, ce qui ne ralentissait en rien son débit.
« C'est une auberge ? Une taverne ? Pas à Maeron en tout cas. Peut-être à Haringill, de l'autre côté du fleuve. Je ne suis jamais allé à... »
Matt posa un index sur les lèvres de la jeune femme.
« Aucune importance. Si on dansait plutôt. »
Une bonne vieille danse de deux rivières cette fois. Appartenant au présent et n'évoquant pas d'autres souvenirs que les siens, sauf qu'il devait faire un sacré effort pour les distinguer des autres désormais. Entendant quelqu'un se racler la gorge, Matt se retourna et soupira en reconnaissant Edorion, debout dans l'encadrement de la porte, ses gantelets renforcés d'acier à la ceinture et son casque sous le bras. Quand il jouait aux cartes contre Matt, dans la pierre de Théar, le jeune noble était un garçon enveloppé aux joues roses de bébé. Depuis ce temps, il s'était endurci, perdant du poids, et il avait bronzé au soleil. Son casque n'était plus orné d'une plume, et des entailles constellaient son plastron naguère lisse et immaculé. Et sur sa veste bleue rayée de noir aux manches larges, on ne comptait plus les marques d'usure.
« Tu m'as demandé de venir te rappeler ta ronde, à cette heure précise. »
En évitant soigneusement de regarder Betsé, il tout sauta derrière sa main levée.
« Mais si tu veux, je peux revenir plus tard. »«
Non, j'arrive. »
répondit Matt. Il était important de faire des rondes tous les jours et d'inspecter à chaque occasion quelque chose de différent. En tout cas, c'était ce que lui soufflaient ses souvenirs empruntés, et sur les points de ce genre, il avait pris l'habitude de les écouter. S'il devait faire ce travail, autant s'en acquitter du mieux possible, parce que ça l'aiderait à rester en vie. De plus, Betsé s'était écartée de lui, et elle tentait en même temps de s'essuyer le front avec son tablier et de remettre un peu d'ordre dans ses cheveux. L'euphorie s'effaçait déjà de son visage, mais ça n'avait rien d'inquiétant. Elle n'oublierait pas. Danse bien avec une femme et tu l'auras à jamais conquise.
« Donne ça au musicien, »
dit-il en laissant tomber trois couronnes d'or dans la paume de sa cavalière. Si mal qu'ils aient joué, ces artistes lui avaient permis de s'évader pour un temps de Maeron et de ne pas penser à son avenir immédiat. En outre, les femmes appréciaient qu'on se montre généreux. Matt s'inclina à un souffle de faire un baise-main à sa belle, puis il lança.
« À plus tard, Betsé. À mon retour, nous danserons encore. »
À la grande surprise du jeune flambeur, la serveuse lui agita un index sous le nez, puis secoua la tête, désapprobatrice, comme si elle avait lu dans ses pensées. Étrange, mais au fond, quand avait-il prétendu comprendre les femmes ? Après avoir vissé son chapeau sur sa tête, Matt récupéra sa lance à hampe noire, appuyée contre un mur près de la porte. Un autre trésor glané en traversant le fichu second Terrangréal. Une arme qui portait sur sa hampe des inscriptions dans l'ancienne langue et dont le fer, qui ressemblait à une lame d'épée courte, était orné par deux corbeaux.
« Aujourd'hui, nous allons faire le tour des tavernes et des auberges, »
dit Matt à Edorion. Les deux hommes sortirent de l'auberge pour débouler sur la fournaise de Maeron et affronter l'agitation qui régnait dans les rues. Bien qu'elle fût 50 fois plus grande que tout ce que Matt avait vu avant de quitter Deux-Rivières, la ville dépourvue de fortifications était en réalité un village quelque peu surdimensionné. La majorité des bâtiments de pierre ou de briques n'avaient qu'un niveau, les toits de chaume ou couverts de bardeaux de bois étant aussi nombreux que ceux en ardoise ou en tuiles. Ces derniers temps, les rues en terre battue étaient en permanence bondées de monde. En matière de civils, c'était surtout des Andoriens et des Kyrieniens qu'on y croisait. Car Maeron, même si elle se dressait du côté kyrienien du fleuve Erinin, n'appartenait plus à aucune nation. Elle s'internationalisait, sous l'influence des gens venus d'une demi-douzaine de pays différents qui y séjournaient ou y passaient quelques jours. Depuis son arrivée, Matt avait même aperçu 3 ou 4 Aes Sedai. Malgré la protection que lui offrait le médaillon, il s'en était tenu loin. Inutile de chercher les problèmes avec une lanterne, mais aucune n'était restée bien longtemps. Quand ça comptait vraiment, sa chance lui faisait rarement défaut. En tout cas, il en était allé ainsi jusque-là. S'occupant de leurs affaires avec une belle concentration, les citadins ignoraient presque totalement les réfugiés qui erraient dans les rues. Des hommes, des femmes et des enfants en haillons, tous venus du Kyrien, qui finissaient par longer le fleuve un moment avant de retourner dans un des camps qui entourait la ville. Très peu d'entre eux s'en repartaient pour le Kyrien, alors que la guerre civile y était pourtant terminée. Mais les brigands y sévissaient toujours, et ces gens avaient peur des Aiel. D'après ce que Matt savait, il redoutait de rencontrer le dragon réincarné. Ayant fui aussi loin qu'il l'avait pu, ces malheureux n'avaient plus d'énergie pour rien, à part ses promenades au bord du fleuve, durant lesquelles ils pouvaient contempler le royaume d'Andorre sur l'autre berge. Les hommes de la compagnie se mêlaient à la foule. Seuls ou par groupe de 3, ils déambulaient devant les boutiques et les débits de boissons. Des nouvelles recrues, des archers ou des arbalétriers en veste courte couverte de disques d'acier, des piquiers porteurs de cuirasses bossuées mises au rebut par leurs supérieurs ou récupérés sur des cadavres. Bien entendu, il y avait aussi des cavaliers théariens et kyrieniens, très faciles à distinguer de loin à la seule vue de leurs casques, et même quelques andoriens, aux casques coniques munis d'une grille protectrice. Durant son règne, Ravine avait éjecté des gardes de la reine tous les hommes qu'il jugeait trop loyaux à Morgaz. Du coup, quelques-uns avaient rejoint la compagnie. Des colporteurs se faufilaient dans la foule, vantant les produits exposés sur leur inventaire. Des aiguilles, du fil, des onguents censés guérir toutes les blessures, des médicaments radicaux contre les ampoules, les dérangements intestinaux et la fièvre, des savonnettes, de la vaisselle en fer blanc garantie contre la rouille, des couteaux et des poignards à la lame en acier andorien, le meilleur du meilleur selon ses vendeurs. Bref, tout ce dont un soldat avait en principe besoin. Plus les extras que des bonimenteurs plus ou moins doués pensaient pouvoir leur fourguer. Dans le vacarme, les beuglements de tous ces camelots ne s'entendaient guère à plus de 3 pas. Bien entendu, les soldats reconnaissaient Matt au premier coup d'œil, et beaucoup l'acclamaient, y compris des hommes trop éloignés de lui pour voir davantage que son chapeau à large bord et la lame de son étrange lance. 2 caractéristiques qu'il identifiait aussi sûrement que les armes d'une maison noble. S'il ne se souciait pas de porter une armure ou un casque, disaient des rumeurs qu'il avait tout entendu, c'était à cause d'une folle bravoure, la thèse la plus sage, ou, la plus démente, parce que seule une arme forgée par le ténébreux en personne était en mesure de le tuer. En réalité, s'il portait un chapeau ordinaire, c'était parce que ses larges bords lui ombrageaient agréablement le visage. Et parce que ce pense-bête lui rappelait en permanence d'éviter tous les endroits où il aurait pu avoir besoin d'un casque, d'une armure. Les histoires qu'on racontait au sujet de sa lance et de ses inscriptions que très peu de nobles pouvaient lire se révélaient encore plus extravagantes. Pourtant, elles restaient bien en deçà de la vérité. La lame ornée de corbeaux avait été fabriquée par des Aes Sedai pendant la guerre des ténèbres, soit avant la dislocation du monde. Il n'était jamais utile de l'affûter, et même s'il en avait eu envie, Matt doutait d'être capable de la briser. Répondant d'un geste de la main au vivat des soldats, « Que la lumière brille sur le seigneur Matrim, le seigneur Matrim et la victoire, et autres crétineries de ce genre », Matt se frayait un chemin dans la foule en compagnie des Doriones. Au moins, il n'avait pas besoin de jouer des coudes, car les gens s'écartaient dès qu'ils le voyaient. Que n'aurait-il pas donné pour que les réfugiés cessent de le regarder comme s'il avait dans sa poche la clé de leur avenir et de leurs espoirs? À part s'assurer qu'ils aient leur part de la nourriture qui arrivait de Théar par caravanes entières, qu'aurait-il pu faire pour ces gens? En plus d'être en haillons, remarqua-t-il, presque tous étaient recouverts de crasse.
Le savon a été distribué dans les camps de réfugiés?
Et Dorion entendit la question malgré le vacarme.
Oui, mais les gens l'échangent à des colporteurs contre de la vinasse. Ils ne veulent pas se laver, mais traverser le fleuve. Ou alors noyer leur malheur dans l'alcool.
Matt eut un grognement amer. Le droit de gagner à Ringil? Non, ça, il ne pouvait pas le leur offrir. Jusqu'à ce que la guerre civile et d'autres horreurs dévastent le pays, Maeron avait été un carrefour commercial pour tout ce que s'échangeaient le Kyrien et Théar. En conséquence, on y trouvait presque autant de tavernes et d'auberges que de maisons. Les 5 premiers établissements qu'inspecta Matt se ressemblaient tous, qu'ils se nomment le Renard et l'Oie ou le Fouet du Conducteur. Des bâtiments de pierre à la salle commune prise d'assaut, avec à l'occasion une rixe amicale dont le jeune flambeur ne se formalisa pas, d'autant plus que personne n'était sous parmi les belligérants. La porte du fleuve, à l'autre bout de la ville, avait été la meilleure auberge de Myron. À présent, les planches clouées sur sa porte décorées d'un soleil sculpté rappelaient à tous les aubergistes et à tous les taverniers ce qu'il en coûtait de laisser les soldats de la compagnie boire plus que de raison. Cela dit, les soldats, même sobres, avaient tendance à se battre à la moindre occasion. Les Théariens contre les Kyrieniens, les Andoriens contre les Kyrieniens, puis les Théariens contre, sans compter les cavaliers contre les fantassins, les hommes d'un seigneur contre ceux d'un autre, les vétérans contre les bleus, les militaires contre les civils. Par bonheur, des hommes armés de gourdins et portant un brassard rouge s'assuraient, fermement, que ces rixes ne dégénèrent pas. Chaque unité devait à son tour fournir des bras rouges, différents tous les jours. Et ceux-ci devaient payer pour tous les dégâts constatés lorsqu'ils étaient en service. Inutile de dire qu'ils faisaient montre d'un zèle percutant. Au Renard et l'Oie, un trouvère d'une quarantaine d'années, taillé en force, jonglait avec des torches. À l'auberge de l'Hérinine, un petit type maigre qui s'accompagnait à la harpe déclamait des passages de la Grande Quête du Corps. Malgré la chaleur, tous deux arboraient leurs capes à carreaux. En réalité, des carrés de tissu cousus sur le vêtement qui ondulait lorsqu'il bougeait. Plutôt que d'y renoncer, un trouvère digne de ce nom aurait préféré se couper une main. Les deux artistes attiraient un nombreux public, la plupart des spectateurs venant de villages où on se réjouissait toujours de la visite d'un trouvère. En tout cas, ils avaient plus de succès que la chanteuse qui donnait un récital sur une table des trois jours, une taverne assez miteuse. Avec ses longs cheveux noirs bouclés, la fille était très jolie. Mais ses chansons sur le grand amour avaient assez peu de chances d'intéresser les ivrognes, qui tenaient lieu de piliers à l'établissement. Les autres auberges et tavernes ne proposaient pas de divertissement, à part un ou deux musiciens. Pourtant, la clientèle affluait, faisant un raffut d'enfer, et des parties de dés étaient en cours sur la moitié des tables. À ce spectacle, Matt eut des fourmis dans les mains. Mais il gagnait presque toujours, surtout aux dés, et il n'aurait pas été juste de dépouiller ainsi ses propres soldats. Et il composait la majorité des joueurs, puisque très peu de réfugiés avaient des sous en poche. Il n'y avait pourtant pas que des soldats dans ses tripots. Matt repéra un mince candorien à la barbe fourchue, chaque oreille ornée d'une pierre de lune grosse comme un œuf, des chaînes d'argent barrant la poitrine de sa veste rouge. Ailleurs, il repéra une domanie au teint cuivré, le regard vif et les doigts lestés de bagues, qui portait une robe bleue curieusement pudique. Il vit aussi un gaillard du Tarabone, son chapeau conique bleu vissé sur la tête, son épaisse moustache visible derrière un voile transparent. Et bien entendu, des Théariens dodus en veste resserrée sur la taille, des Mourandiens maigrichons en veste longue leur pendant sur les genoux, et toute une théorie de femmes en robe au col montant ou à l'ourlet au ras de la cheville, mais toujours très bien coupées, dans du tissu de qualité d'une couleur sobre. Des négociants et des négociantes, tous prêts à se remettre à l'ouvrage dès que renaîtrait le commerce entre le royaume d'Andorre et le Kyrienne. Dans chaque salle commune, Matt nota la présence de deux ou trois hommes au regard dur assis à l'écart, en général seuls à une table, certains très bien habillés, d'autres à peine mieux mis que les réfugiés, mais tous paraissant savoir se servir de l'épée qui battait leur flanc ou était accrochée dans leur dos. Dans cette catégorie d'individus, Matt classa également deux femmes qui n'arboraient pourtant aucune arme. Mais l'une avait posé sur la table ce qui n'était sûrement pas un long bâton de marche, et l'autre devait avoir un ou plusieurs couteaux cachés dans sa jupe d'équitation. En portant lui-même plusieurs sur toute sa personne, Matt n'avait pas les yeux dans sa poche sur ce sujet. D'autre part, certain de savoir pourquoi tous ces aventuriers étaient là, il pensait sincèrement que la femme en question, si elle était venue les mains vides, aurait été la plus grande idiote du monde. Alors qu'il sortait du fouet du conducteur avec Edorion, Matt s'arrêta pour suivre des yeux une femme solidement charpentée et en jupe culotte qui se frayait un chemin dans la foule. Son regard vif, qui ne ratait pas un détail, démentait l'apparente placidité de son visage rond. Idem pour le gourdin clouté qui pendait à sa ceinture, en face d'un couteau à la lame assez imposante pour convenir à un aïeul. Une troisième femme a classé dans la catégorie des aventuriers. En réalité, des quêteurs du corps, à la poursuite du légendaire instrument qui rappellerait les héros morts de la tombe, afin qu'ils participent à l'ultime bataille. Trouver le corps, c'était s'assurer une place de choix dans l'histoire. « En supposant qu'il reste quelqu'un pour l'écrire », pensa Matt, d'humeur morose. Certains quêteurs pensaient que le corps réapparaîtrait dans un endroit où il y avait du grabuge, voire un conflit. La grande quête du corps n'avait plus été lancée depuis 4 siècles. Pourtant, cette fois, les gens avaient accouru de partout pour prêter le serment rituel. dans les rues de Kairienne, Matt avait vu des hordes de quêteurs. Il s'attendait au même spectacle dans celle de Théar quand il y serait. Et sans nul doute, ces chevaleresques idiots devaient se ruer en masse vers Kemlin à présent. Dommage qu'aucun d'eux n'ait trouvé le corps. Selon ce qu'il en savait, l'instrument du fichu Valère était caché quelque part dans les entrailles de la Tour Blanche. Et s'il connaissait les Aes Sedai, moins d'une dizaine devait être au courant. Des fantassins qui suivaient un officier kyrienien à cheval passèrent entre Matt et la femme au gourdin. Une sacrée colonne, composée de presque 200 piquiers suivie par une cinquantaine d'archers, armes à l'épaule et carquois sur la hanche. Leurs arcs ne ressemblaient pas à ceux de Derivière, une bonne partie de l'enfance de Matt, ses concours de tir. Mais il restait des armes de bonne qualité. Il devrait trouver assez d'arbalètes pour compléter ses forces, même si les archers ne voyaient pas ça d'un bon œil. Toute la colonne chantait, ses nombreuses gorges assez puissantes pour couvrir le vacarme ambiant. « Tu boufferas des haricots, du foin pourri, de la barbaque. Pour tes 20 ans comme cadeau, t'auras un bon coup de sabot. En vieillissant, tu saigneras, d'assaut glorieux en ville attaque. Et pour seul sou, tu compteras, ce qu'en rêve tu trouveras. Ami, si tu deviens soldat, ami, si tu deviens soldat. » Une masse de civils, citadins et réfugiés confondus, suivait ce défilé. Uniquement de jeunes hommes qui regardaient et écoutaient, leur curiosité en éveil. Un phénomène qui déconcertait Matt. Plus la chanson médisait du métier de soldat, celle-ci était loin d'être la pire, plus la foule se densifiait. Aussi sûrement que l'eau mouillait, une bonne partie des spectateurs irait parler à un porte-étendard avant la fin de la journée. Et parmi eux, un grand nombre finirait par écrire leur nom ou faire une croix en bas du formulaire d'engagement d'un sergent recruteur. Ces imbéciles pensaient-ils que les chansons avaient pour but de les décourager afin que les militaires gardent toute leur gloire pour eux? Au moins, les hommes ne chantaient pas « Danser avec le grand faucheur ». Cette chanson-là, Matt la détestait. Mais dès que les candidats à la boucherie avaient compris que le grand faucheur était la mort, certains ne brillaient pas par leur intelligence, ils se précipitaient à la recherche d'un porte-étendard, courant à en perdre haleine. « Ta fiancée épousera de guerre lasse un autre type. Et toi, pour foyer, tu auras un tombeau boueux, petit gars. Pas même un chien pour te pleurer, des vers qui te rongent les tripes. Dans ta miteuse éternité, tu regretteras d'être né. Ami, si tu deviens soldat, ami, si tu deviens soldat. »